On a parlé le début du chapitre, on a vu la dernière fois le début du chapitre et d'abord quels étaient ses songes? Qu'est-ce qu'il a vu dans ses songes? Oui, Francisco.
Il voit en quelque sorte qu'il était le chef de ses frères et de ses frères.
Voilà, les deux songes correspondent à une idée principale, c'est que, bon, eux déjà, ils se prosternaient devant lui, et même les parents, toute la famille lui serait soumise. Alors, est-ce que les frères ont apprécié cela? Est-ce que lui, il a commandé son songe? Est-ce que c'est lui qui avait décidé que le songe soit comme ça? Et le songe... si ça venait de Dieu, c'est que Dieu lui a informé de quelque chose. Je dis en fait informer tout le monde de quelque chose. Et si les frères n'ont pas apprécié les songes, c'est pas tellement Joseph qui n'appréciait pas, mais c'est en fait c'est eux n'acceptaient pas cette information. Ils voulaient pas que les choses se passent de cette manière-là. Et en fait. C'est pas juste une question de jalousie du petit frère, c'est une question qui rejetait Dieu. Même si c'est le petit frère qui l'a eu, mais si ça venait de Dieu et Dieu est en train de les avertir de quelque chose et eux se fâchaient, le père il a dit c'est quand même un peu bizarre ton songe, mais bon, on a quand même vu la dernière fois que David a caché ça dans son cœur. Eux se sont fâchés contre lui, ils sont devenus jaloux, envie et. Mais le père a caché ça dans son cœur, un peu comme Marie qui cachait dans son cœur des choses qu'elle ne comprenait pas non plus. Hein? Marie, mère de Jésus. Alors on va passer à donc la partie qu'on va voir, la deuxième partie du chapitre. Ce que je veux faire ressortir, c'est le fait que ces conflits entre les hommes ont des plans et Dieu a un projet. Et il y a des conflits. Vous pouvez imaginer lesquels se réalisent. Les hommes ont des plans, Dieu a un projet, mais lequel se réalise? Et c'est bon pour nous de le savoir, hein, on a besoin de le savoir. Donc d'abord nous allons voir Joseph à Sichem. Je lis au verset 12, Genèse 37, et verset 12, je lis jusqu'au verset 17. C'est un peu pour mettre les choses en contexte. Les frères de Joseph étant allés à Sichem pour faire paître le troupeau de leur père, Israël dit à Joseph, « Tes frères ne font-ils pas paître les troupeaux à Sichem? Viens, je veux t'envoyer vers eux. » Vous connaissez quelqu'un d'autre dans la Bible où le père a envoyé le petit frère pour aller prendre des nouvelles sur les grands frères? David, voilà, et puis c'est là qu'il a rencontré Goliath. Sichem, peut-être ça ne vous dit pas grand-chose là, mais si vous lisez dans le chapitre 34, c'est là où il y a eu une petite histoire avec Sichem, monsieur Sichem, hein, donc la région, mais c'est la famille Sichem, et il y a eu un problème entre deux fils de Jacob. Et le fils de Sichem, parce que lui s'est intéressé à leur petite sœur. Et ça a créé des problèmes. Et finalement, ils se sont vengés parce que lui a abusé d'elle. Et donc, ils se sont vengés et ils ont tué tous les mâles dans ce village de Sichem. Hein. Donc c'est un peu c'est étrange qu'eux, maintenant, ils retournent. Alors qu'après avoir fait ça, ils retournent. Mais bon, on n'en sait pas plus, c'est juste pour vous situer. Alors, verset 14, « Israël lui dit, « Va, je te prie, et vois si tes frères sont en bonne santé, et si le troupeau est en bon état, et tu m'en rapporteras des nouvelles. » Il l'envoya ainsi de la vallée d'Hébron, et Joseph alla à Sichem. Apparemment, il arrive là, et il cherche tout autour, et il ne trouve pas ses frères. Pourtant, certainement qu'il y avait de grands troupeaux, et puis il y avait quand même 11 hommes avec eux, sans parler de serviteurs et tout ce qu'ils pouvaient avoir, et beaucoup de troupeaux. Mais lui, il tourne et il trouve personne dans la région. Donc, au verset 15, il nous dit « Un homme le rencontra comme il errait dans les champs. » Donc, il est là, il est en train de tourner et il trouve rien du tout. Il est en train de tourner dans tous les sens. Joseph répondit « Je cherche mes frères. Dis-moi, je te prie, où ils font paître leurs troupeaux. » Et l'homme dit « Ils sont partis d'ici. » Car je les ai entendus dire, allons à Dothan. Joseph alla après ses frères et il les trouva à Dothan. Donc, il y a un monsieur inconnu qui se présente. Il y a un monsieur inconnu qui se présente. Et qui rend service. Vous croyez que c'est par hasard qu'il a rencontré quelqu'un ? Ou est-ce que... Comment est-ce que dans cette même condition, et comme ça, un homme qui n'a rien à faire avec ces gens, il est au courant, il a dit « je les ai entendus », c'est que s'il les a entendus, c'est qu'il était près d'eux, il était avec eux, il sait ce qu'ils ont pensé, mais on n'en sait pas plus. Il a dit « mais ils sont partis à Dothan ». Et puis c'est tout. On peut pas tirer de conclusion, mais ce qu'on sait, ce que je sais à partir d'autres expériences, et peut-être dans votre propre expérience, c'est que des fois, on rencontre juste la personne qu'il faut au bon moment. Et qu'est-ce qu'on dit ? Merci Seigneur. On ne sait pas comment expliquer la chose, on ne sait pas si la personne... On pourrait dire elle est là par hasard, on pourrait dire le Seigneur l'a envoyé, on peut dire ce qu'on veut. Mais n'importe comment, s'il y a quelqu'un d'inconnu là qui nous rend service et qui normalement on ne trouverait personne, on a envie de dire merci Seigneur. Et j'espère qu'on le fera. Hein, quand on est là, perdu, et puis tout d'un coup il y a quelqu'un qui rend service, qui vous oriente, qui vous aide, qui protège, peu importe ce qu'ils font, mais quelqu'un tout d'un coup apparaît et répond à un besoin. Eh bien... Surtout si on ne sait pas d'où ils viennent et où ils partent et tout ça, eh bien, on dit merci Seigneur. Et c'est vraiment parce que c'est vrai, et par d'autres situations, on sait que c'est vrai, c'est que Dieu envoie quelqu'un juste sur notre chemin pour nous aider. Et il peut conduire des gens, et Dieu est capable. Et donc, cet inconnu, je ne vais pas dire que c'est fort possible, je n'ai rien pour baser. Mais c'est possible. En tous les cas, ça arrive que Dieu envoie quelqu'un sur notre chemin pour nous aider. Hein, vous êtes en panne, c'est la nuit, il n'y a personne, et tout d'un coup, il y a quelqu'un qui est gentil. Qu'est-ce que vous dites ? Ben, disons merci Seigneur. Hein, remercions le Seigneur pour cela. Le Père, il a dit, va jusqu'à Sichem. Trouve tes frères. Il aurait pu, Joseph aurait pu rentrer et dire, j'ai pas trouvé. Mais là, lui, il a compris que le message, c'était, va trouver tes frères. C'est pas juste, va à Sichem. Vous savez, des fois, ça nous arrive, on fait le strict minimum. On fait ce que la personne a dit, sans se chercher à savoir ce qu'ils ont voulu. Et là, Joseph, c'est pas seulement une question, je vais à Sichem, je ne sais pas trouver, rentre à la maison, je n'ai pas trouvé. Puis, c'est pas mon problème, hein. J'ai fait ce que j'avais à faire. Ou bien, non, mais papa voulait des nouvelles, il voulait savoir comment va le troupeau, comment va mes frères, donc je vais encore plus loin pour les trouver. Hein, donc, sachons faire quelques pas supplémentaires pour vraiment remplir la mission. Hein. Je crois que c'est une attitude à avoir. Dans le monde, vous rencontrez les gens, vous les dites, et vous leur posez des questions et ils vous donnent des réponses incomplètes. C'est pour Toulon, c'est par là. Puis on ne dit pas plus. Bon, merci. Puis on continue. Ou bien ils pourraient nous aider un peu plus. Vous allez dans l'administration. Souvent, ils répondent. Il me dit, ben oui, ben il faut, oui, ben il faut, les, il faut remplir un formulaire. Puis vous êtes là. Il faut remplir un formulaire. Oui, mais bon, ben maintenant, la suite. Où est-ce que je trouve ce formulaire? Non, on est obligé de leur demander en plus. Et comment est-ce que je trouve ce formulaire? Qui est-ce qui peut me le donner? Et tout ça. C'est-à-dire, il y en a qui donnent la réponse, juste une réponse. On a demandé. Ils donnent juste la réponse et pas plus. Ben, je crois que nous, en tant que chrétiens, essayons de pas faire comme font les autres, faisons ce qu'on doit faire. Hein? Si j'ai une réponse plus complète, eh ben je vais plus loin et j'aide la personne jusqu'au temps qu'elle veut. Si elle me dit non, c'est bon, vas-y. Hein? Mais si je vois qu'elle elle a encore un point d'interrogation dans le visage, eh ben je vais un peu plus loin. Hein? Voilà. Alors ensuite. Je crois que voilà, j'ai oublié de cliquer. Après, Joseph va à Dothan et verset 18. Il nous dit, ils le virent de loin et avant qu'il soit près d'eux, ils complotèrent pour le faire mourir. Alors, ils le reconnaissent de loin. Ouais, grâce à son manteau de plusieurs couleurs. Hein. C'était pas tout le monde qui avait des manteaux comme ça. Et c'est comme aujourd'hui, si on voit un manteau fluo et on sait, voilà, un tel, il porte toujours un manteau orange. Eh bien, on le voit de très loin. Ben, lui, il avait un manteau, on savait de loin que c'était lui. Ils ont eu le temps de mettre en place tout un complot concernant leur frère. Bon, ils ont pu aller vite. Parce que déjà, il y avait des sentiments réels dans le cœur. Hein. C'est pas les pensées étaient là, le désir était là, voilà l'opportunité. Et complote à le faire mourir. Et regardez verset 19, ils se dirent l'un à l'autre, « Voici le faiseur de songes qui arrive. » Pour eux, ça c'est le gros problème. C'est pas Joseph, c'est pas qu'il est le fils de Rachel, c'est pas... Bon, qui, on s'est habitué au fait que papa le préfère, ça c'est vrai, mais ça c'est le songeur, c'est celui qui croit qu'il va dominer sur nous. Alors ça, il n'aime pas. Hein? Alors il complote de le tuer, et venez maintenant, tuons-le et jetons-le dans une des citernes, et nous dirons qu'une bête féroce l'a dévoré, et nous verrons ce que deviendront ses songes. C'est ça le vrai problème. Hein, c'est pas se débarrasser de lui, mais de s'assurer que les songes ne se réalisent pas. Quelque part, ils ont une notion très, très limitée de Dieu. Comme si, ben, il suffit de tuer quelqu'un, et puis après, Dieu il s'est dit, « Oh là, j'ai pas prévu ça, comment je fais maintenant ?» Pour nous, ça nous arrive, des choses. Les gens peuvent gâcher nos plans. Mais Dieu, c'est pas si évident que ça. Alors, pourquoi s'ils ont comploté? Eh bien, c'est sorti de leur cœur. Hein. Jésus a dit, l'homme bon tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur et le méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous savez, qu'est-ce qu'on dit quand il y a quelqu'un qui fait un mauvais tour, et puis après nous, on a une réaction qui n'est pas très, très chrétienne. Et on dit, mais pourquoi tu as dit ça? Ben, c'est à cause de lui. Jésus dit, si c'est sorti, c'est parce que c'était dans ton cœur. Personne d'autre peut mettre quelque chose dans mon cœur. Mais si c'est dans mon cœur, il suffit que quelqu'un remue un peu, puis ça monte. Hein? C'est tout. Mais sinon, c'est là. C'est au fond, c'est quelque part. Et il suffit qu'une personne fasse quelque chose qui l'irrite, qui le remue, ou qui stimule des souvenirs du passé, ou de quelque chose qui a été dit, et tout d'un coup, ça explose. Ben, c'est dans le cœur. Je suis responsable pour tout ce qui est dans mon cœur. je suis responsable pour tout ce qu'il y a dans mon cœur. Je ne suis pas responsable pour ce que lui dit, il est responsable pour ce qu'il dit, ce qu'il fait, comment il m'a provoqué. Je ne dis pas que c'était bien, mais ce qui sort de mon cœur, ce qui sort de ma bouche, je suis responsable. Et c'est pas, c'est lui. Donc ça peut arriver dans un couple, ça peut arriver entre amis, ça peut arriver à la poste, ça peut arriver n'importe où. Mais si ça sort, c'est que c'était là. Hein? Et s'il y a des bonnes choses qui sortent, c'est pas parce que l'autre est gentil, c'est parce que dans mon cœur, il y avait des bonnes choses. Hein? Le trésor, ça dépend de ce que je mets dans le trésor. Et le trésor, on le remplit pas au moment même. Le trésor, il se remplit au fur et à mesure du temps. Je l'ai rempli par mes lectures, par mes études, par ma recherche d'un comportement chrétien, parce que j'ai un modèle que je veux suivre. Je suis en train d'emmagasiner et de changer la nature de ce qui est dans le trésor. Et après, quelqu'un agit, quelqu'un provoque, eh bien, c'est soit des bonnes choses, soit des mauvaises choses, ça dépend ce qu'il y avait déjà. Hein. Une poubelle qui a des ordures, elle ne fait pas remonter du parfum. Mais si c'est une poubelle, mais dans laquelle j'ai mis de... ces fleurs violettes là qui poussent ici dans le sud, la lavande. Si j'ai rempli ça de lavande, même si c'est une poubelle, quand je lève le couvercle, ça va sentir quoi? La lavande, c'est pas parce que c'est une poubelle que ça sent mauvais, c'est pas à cause de ce qu'il y a dedans. Et nous, mon corps, il est neutre, mais en fonction de ce que j'ai dans mon cœur, il y a des choses qui vont ressortir. Donc si ces frères, si rapidement, ils peuvent commencer à penser meurtre et vengeance et puis mettre fin au plan de Dieu, c'est que ça travaille dans leur cœur depuis quelque temps. Dans leur discussion entre eux, ils s'irritent, ils se stimulent l'un l'autre et ça a pu monter. Donc quelque part, quand ils disent bon, on verra ce qui arrivera de ces songes. Qu'est-ce qu'ils sont en train de dire? Les songes, c'était le plan de Dieu. Donc s'ils veulent mettre fin et empêcher les songes de se réaliser, c'est qu'ils sont contre le plan de Dieu. C'est une rébellion. Et là, bien sûr, ça c'est une attitude aussi. Non, on ne veut pas ce que Dieu veut. Je fais ce que je veux. On fait comme on veut. C'est nous qui contrôlons notre vie. C'est nous qui contrôlons notre situation. C'est nous qui allons décider. C'est moi, ce n'est pas les autres. Non, ce n'est pas les autres, bien sûr. Mais en fonction de ce que je décide, ça a un rapport avec... Ça dit quelque chose par rapport à ce que je pense de ce que Dieu dit. Hein? Donc, je vais selon la pensée de Dieu, c'est parce que je donne la valeur aux pensées de Dieu. Si je vais selon mes pensées qui sont contraires à Dieu, c'est que je préfère mes pensées à celles de Dieu. Hein? Il n'y a pas 36 manières d'interpréter le message. Et ces hommes... Eh bien, ils étaient contre Dieu, même s'ils étaient fils de Jacob. Alors, ils veulent annuler les songes. Le seul moyen qu'ils connaissent, c'est le meurtre. Après, une fois le meurtre, qu'est-ce qu'il faut faire pour couvrir? Parce qu'après, il faudra expliquer à papa, hein, qu'est-ce qu'on va faire. Alors après, on est obligé de raconter des mensonges. Vous savez, l'être humain sert beaucoup du mensonge pour essayer de couvrir des fautes. Et plus les gens posent des questions, plus on est obligé de encore raconter. Et puis des fois, ça devient tellement gros que c'est pas crédible. Mais c'est le péché attire un péché entraîne un autre. Hein. Et eux. Au lieu de dire, après, il faudra mentir à notre père, pourtant on l'aime bien, tout ça, mais il faudra mentir à notre... Ben, on va tuer, puis on va dire un mensonge à notre père, tant pis. Et finalement, ils devront dire beaucoup de mensonges. Alors, voilà. Comment couvrir le meurtre après ? Eh ben, il faudra de la tromperie. On va sacrifier une chèvre. On va mettre du sang sur le manteau. On va le déchirer un petit peu. On va faire semblant de l'avoir trouvé. Et puis après, on va montrer ça à papa. Puis on lui dit, regarde ce qu'on a trouvé. Et c'est celui de ton fils. Il dit, oh, oui, c'est celui de mon fils. Ah, oh, un animal a dû le tuer. Et on le laisse à la tromperie. Mais vous savez, qui était celui qui a pratiqué beaucoup de tromperies ? Jacob lui-même. Jacob, qu'est-ce qu'il a trompé ? Bon, il a été trompé par Laban, et lui, il a trompé du monde aussi. Et puis maintenant, ses fils vont le tromper. Ce qu'on récolte, ce qu'on a semé. Et vous savez, si on ment, et puis on... Après, si quelqu'un d'autre ne ment, il ne faut pas se fâcher. Hein. Ah, tu m'as menti ! Comment tu peux l'accuser de mensonge et le critiquer à cause de son mensonge si toi tu pratiques le mensonge ? Dieu dit, vous serez jugé du jugement dont vous jugez les autres. Si tu trouves que ce n'est pas normal que lui mente, ben, tu n'as pas à mentir. Si tu ne trouves pas normal que lui trompe, eh ben, tu ne dois pas tromper. Et on n'a pas, si on n'a pas le droit d'accuser quelqu'un ou de condamner quelqu'un pour quelque chose que je pratique. Hein, ça, c'est de l'injustice. Hein, on parle des injustices chez les autres, mais ça, c'est de l'injustice. Même si les gens ne savent pas que moi, j'ai trompé. Hein. Bon, oui, je m'ai trompé celui-là, mais toi, tu m'as trompé moi. C'est pareil, c'est ce que je pratique. C'est ça, la justice. C'est la règle qui conduit ma vie. La règle qui selon laquelle je gère ma vie. Ça, c'est la loi que je suis. Et peu importe à qui j'ai affaire. Alors, Ruben intervient. Parce que Ruben, il dit, aïe, ça fait pas bien hein, quand même. Alors, verset 21, Ruben, sans dire quoi que ce soit, Ruben entendit cela et il le délivra de leurs mains. Voilà ce qu'il dit. Il essaye de, sans être contre eux, mais il essaye de voir comment il peut faire. Il dit, ne lui ôtons pas la vie. Ruben leur dit, ne répandez point de sang, jetez-le dans une citerne qui est au désert et ne mettez pas la main dessus. Et pourquoi il dit ça ? Parce que lui, il avait l'intention d'aller le tirer de là et puis lui dire « rentre à la maison ». Alors il dit non, on ne va pas le tuer, on va le mettre dans une citerne là, et puis on le laissera, hein, comme ça au moins on n'aura pas tué quelqu'un, on n'est pas meurtrier. Bon, je ne vois pas la différence entre tuer quelqu'un de suite, ou le mettre dans une citerne et le laisser, excusez-moi, crever. Bon, il vaut mieux, moi je dis, si vous avez affaire, vous voulez le faire à moi, je préfère mourir de suite que mourir de faim dans une citerne. Je dis ça maintenant, mais bon, pas sûr dans la situation ce que je ferai, mais là il croit que et les frères, eh ben ils marchent. Verset 23. Lorsque Joseph fut arrivé auprès de ses frères, ils le dépouillèrent de sa tunique, de la tunique de plusieurs couleurs qu'il avait sur lui. Moi, dans un autre sens, je me dis, mais pourquoi il a porté ça? Pourquoi il n'a pas laissé à la maison et mis autre chose? Mais bon, il a son petit problème. On va le laisser comme ça. Et verset 24. Ils le prirent et ils le jetèrent dans la citerne. Cette citerne était vide. Il n'y avait point d'eau. Ils s'assirent ensuite pour manger. Vous vous rendez compte? Après, ils vont manger. Tu enterres ton frère, tu le mets dans la situation, puis après tu vas manger, casser la croûte tranquillement. Bon, ça c'est réglé, le problème est réglé, c'est bon. On passe au chapitre suivant. Ruben intervient, le plan il exécute, et alors après, il y a des nouvelles circonstances. Verset 25, il nous dit, ils s'assirent pour manger, Ayant levé les yeux, ils virent une caravane d'Ismaélites venant de Galaad. Leurs chameaux étaient chargés d'aromates, de baumes, de myrrhe, et qu'ils transportaient en Égypte. Alors Judas dit à ses frères, parce que lui aussi il intervient, parce qu'il veut un peu sauver, il veut pas, ça le gêne, il a ça sur la conscience, il veut pas tuer son frère. Alors il essaie de proposer une solution. Judas dit à ses frères, que gagnerons-nous à tuer notre frère et à cacher son sang? Venez, vendons-le aux Ismaélites et ne mettons pas la main sur lui, car il est notre frère, notre chair. Et ses frères l'écoutèrent. Au passage des marchands madianites, ils tirèrent et firent remonter Joseph hors de la citerne et ils le vendirent pour 20 sicles d'argent aux Ismaélites qui l'emmenèrent en Égypte. Voilà. Alors là, il y a encore une autre... Judas intervient. Il dit, écoutez, c'est pas la peine de tuer. Mais en plus, on peut avoir un peu d'argent. On le prend, on le vend... l'emmène, et puis voilà, en Égypte, on ne le reverra plus. Et surtout pas ses songes. Et puis, on n'aura pas tué notre frère. On pourra dire, non, ce n'est pas nous qui l'avons tué. Ce sera un mensonge en moins, quand ils seront rentrés à la maison. Alors, le plan est mis à exécution, il est vendu, et ces Madianites l'emportent. Alors, vous savez, les frères, dans un sens, à un certain niveau, ils ont un certain succès. Ils exécutent leur plan selon ce qui est dans leur cœur. Mais le plan de Dieu, il va s'accomplir. Et si vous connaissez la suite de l'histoire, vous allez voir que ça va s'accomplir. Eux, ils sont contents d'eux, ils sont satisfaits. Voilà. Ce petit-là qui nous embête, ça y est, on l'a mis de côté, il est casé, on n'entend plus parler de lui, et surtout pas de ses songes. Vous savez, il y a une situation dans la Bible, Jésus-Christ est venu dans le monde, à l'âge de 30 ans, il a commencé son ministère, et est-ce que les gens... était favorable à son ministère et son projet. Il a rencontré de l'opposition. Et lui, bon, Joseph, on pourrait lui dire, ouais, ben, il a fait un peu le fanfaron, on pourrait dire de Joseph, il a un peu porté son manteau un peu trop, il aurait pu le laisser dans la tente, et dire, je garde ça pour un autre jour, il aurait pu... Bon, Joseph, on peut dire des choses, mais sur Jésus, qu'est-ce qu'on peut dire? Il s'est comporté correctement en toutes choses, il a fait du bien, il a guéri et tout cela. Et pourtant, les hommes refusent le plan. Et qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent le tuer. Comme ça, le plan de Dieu en Jésus-Christ ne se réalise pas. On veut le tuer. Mais vous savez, qu'est-ce qui arrive? Ils essayent, jusqu'à un certain point, ils réussissent avec leur plan. Mais vous connaissez la fin de l'histoire dans l'Évangile. C'est quand même le plan de Dieu qui se réalise. Les hommes agissent, et c'est ça, c'est assez important de voir ça. Les hommes, et Dieu les laisse agir selon leur gré. Mais le plan de Dieu, c'est Dieu qui le réalise. Le plan du salut, c'est Dieu qui le réalise. Dieu, ce qu'il a projeté de faire, ce qu'il veut faire, se fait. Mais, ce qui est extraordinaire, c'est qu'il laisse agir les hommes. Et c'est pour ça, vous regardez le monde autour de nous, finalement, on dit, mais pourquoi est-ce que Dieu... Et certains nous disent, mais un Dieu qui est puissant et tout ça, pourquoi il laisse les gens faire? Dieu laisse agir selon le gré. Les hommes sont libres, libre arbitre, responsables, ils font ce qu'ils ont envie de faire, ils font ce qu'il y a dans leur cœur, ils le font. Mais ils n'embrouillent jamais le plan de Dieu. Et ça me rassure moi, parce que si Dieu a un plan pour ma vie, les hommes peuvent faire ce qu'ils veulent, mais le plan de Dieu pour ma vie, elle se fera. J'ai été dernièrement, je crois avec des frères hier, j'étais à Béziers, et on parlait les situations dans le monde et tout ça. Mais vous savez, dans, vous lisez tout l'évangile et le ministère de Christ, et il ne parle jamais de ce que font les Romains, ni les Grecs, il ne parle pas des... Il fait comme s'il n'existait pas. Lui, il continue ce qu'il a à faire. Bon, les Romains, nous, on sait qu'ils faisaient des guerres, ils sont constamment... Mais lui, non, il n'en parle même pas. Et dans un sens, Dieu, un peu, c'est comme ça qu'il travaille. Les hommes font, ils ont des projets, ils démolissent, ils reconstruisent, ils tuent et tout. Mais Dieu continue, son plan continue. Hein? Dans un sens, Dieu, il applique le proverbe hein, qui dit le chien aboie, les caravanes passent. Hein? Les hommes, ils disent tout ce qu'ils ont à dire contre lui, ils le maudissent, ils l'accusent, ils mettent la faute sur lui, toutes sortes de choses. Mais Dieu continue. Il continue tranquillement son chemin et il réalise son plan. Et c'est ce qu'on voit dans la vie de Joseph. C'est que les frères, avec toute la haine qu'ils ont dans leur cœur et la jalousie et l'envie, et ils sont capables de tuer leur frère et de mentir à leur père et de tout cela. Mais le plan de Dieu se réalise. Voilà, donc, et on voit, Joseph est vendu par ses frères dans l'esclavage. Et vous savez que Jésus aussi, il a été vendu. Hein? Dans Matthieu 26, Judas va voir les pharisiens et tout ça, puis on lui propose, Joseph a été vendu pour 20 pièces d'argent, Jésus est vendu pour 30 pièces d'argent. Et on peut même lire dans le Matthieu chapitre 27, parce qu'il fait référence à une prophétie. Hein, c'était quand, si Jésus a été vendu, c'était selon la prophétie que Dieu a le concernant. Et Matthieu 27, et les versets... je vais lire à partir de verset 3. 27, verset 3. Il dit « Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, fut pris de remords et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs et aux anciens, et disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe ? Cela te regarde. » Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Les cinq principaux sacrificateurs les ramassèrent et dirent « Ce n'est pas permis de mettre dans le trésor sacré, c'est le prix du sang. » Et après en avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Donc il a dit un petit terrain pour s'il y a un étranger qui meurt, on a un endroit pour l'enterrer. C'est pourquoi ce chant est appelé le chant du sang jusqu'à ce jour. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le chant du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Et vous lisez dans Jérémie, c'est exactement ça. Il dit 30 pièces d'argent pour le chant du potier. Hein, c'était... Les choses se passent exactement comme Dieu le sait et Dieu peut prévoir. Ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu, dans sa préscience, dans sa capacité de tout savoir, il laisse les hommes faire, mais comme il sait ce qu'ils vont faire, il peut faire des projets et il peut réaliser son plan quand même. Hein? Voilà, ils sont là, mais vous savez, cet argent, ça a perdu son goût. Au début, ça avait l'air 30 pièces d'argent. Et puis après, une fois qu'il avait vendu Jésus, il dit, j'aime pas cet argent. Et vous savez, des fois, on veut goûter au péché. On dit, ouais, j'ai envie, je vais essayer. Oh, je vais le faire, et tout ça. Et puis une fois qu'on l'a fait, on dit, ah, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, ah, j'ai caché ma vie. C'est l'enfant de Dieu qui pêche, c'est pas agréable. L'homme du monde qui pêche, et il trouve une certaine jouissance. L'enfant de Dieu va faire la même chose, et il trouve du dégoût. Et il dort mal, alors que les autres, ils dorment tranquillement sur les deux oreilles. Et moi, j'ai un problème. On ne peut pas. Une fois qu'on a, on ne peut pas, même pas avoir la joie que le monde a, une fois qu'on a connu le Seigneur. L'enfant désobéissant, l'enfant de Dieu désobéissant, il est malheureux. Et il est mal à l'aise, et puis il est embêté. Et puis après, il est obligé de dire toutes sortes de choses, de se dire toutes sortes de choses, pour essayer de continuer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, les frères, ils ont vendu. Vous voyez, bon, verset 29, là, comme Ruben, apparemment, il n'était pas au courant, hein, quand on a vendu. C'était un changement de projet. Alors Ruben, lui, il a fait semblant d'aller quelque part. Et puis il a fait le tour, il arrive à la citerne. Elle est vide. Aïe, qu'est-ce qui t'est arrivé maintenant? Bon, c'était une citerne duquel on ne pouvait pas fuir. Donc il savait que Joseph n'avait pas fui. Alors il revient trouver ses frères, il retourne à ses frères, il déchire ses vêtements. Il dit, l'enfant n'y est plus. Et moi, où irai-je? Il dit, qu'est-ce que je vais dire, moi? Parce qu'il était l'aîné. Dis-moi, qu'est-ce que je vais dire à notre père maintenant? Qu'est-ce que je vais lui raconter? Et il est pris de panique. Alors là, on lui raconte ce qui est arrivé. Bon, maintenant, le frère est parti. Maintenant, il faut trouver un moyen de couvrir quand même. Alors, ils prennent le vêtement, la tunique de Joseph. Ils tuent un bouc. Ils plongent la tunique dedans, on barbouille de sang. Et puis, ils envoient ça avec quelqu'un. Il dit, écoute, regarde ce qu'on a trouvé, que tu reconnais, pour lui laisser arriver à ses conclusions avant qu'eux, ils arrivent. Comme ça, ils ne sont pas obligés de raconter. Ce n'est pas eux qui vont raconter le mensonge. C'est lui qui va arriver à ses conclusions et ils n'ont rien à dire. Vous vous rendez compte comment on peut, à quel point on peut arriver et on complote. Et ils sont tous obligés d'être solidaires, hein, parce que s'il y en a un qui raconte, après, ils sont tous pris. Hein. Donc, ils sont obligés. Ruben, qui il peut rien maintenant, il ne peut pas faire marche arrière. Joseph est parti, il n'est plus. Donc il est obligé de rester solidaire. Judas, lui qui voulait un peu, il est obligé. Tout le monde est obligé de mentir. Ceux qui le font facilement et ceux qui le font difficilement. Tout le monde est obligé de mentir. Ça c'est un genre de truc qui arrive dans une famille. Tout le monde est au courant sauf papa. Ou maman. Et alors, après, les enfants, ils savent tout. Et, mais tout le monde est obligé de se taire. Ben, c'est le même truc. Hein. Ça arrive tout le temps. Et on est obligé de faire semblant. Bon. Ah, lui, Joseph. Mais nous, on l'a laissé ici. Et on fait toutes sortes de trucs. Hein. Il y a toutes sortes de... Le théâtre, il devient extraordinaire. Alors, 31. Ils prirent alors ils prennent. Et après, ils arrivent verset 32. Ils envoyèrent à leur père la tunique de plusieurs couleurs, lui faisant dire, voici ce que nous avons trouvé. Reconnais si c'est la tunique de ton fils ou non. Verset 33. Jacob le reconnaît. Et il dit, c'est la tunique de mon fils. Une bête féroce l'a dévoré. Joseph a été mis en pièces. Et il déchira ses vêtements, et il mit un sac sur ses reins, et il porta longtemps le deuil de son fils. Regardez, verset 35, c'est quand même extraordinaire, mais c'est eux qui se sont mis dans ce pétrin. Maintenant, tous ses fils et toutes ses filles vinrent pour le consoler. Comment ils vont le consoler? Comment le consoler quand on sait? Parce que certainement que les frères, ils ont raconté à leur épouse aussi. Tout le monde est au courant, sauf papa. Comment ils vont... Comment vous pouvez consoler quelqu'un quand vous savez ce qui s'est passé? Combien de mensonges est-ce qu'il faut raconter? On dit, écoute, non, ben oui, puis on essaie de le détourner, lui faire penser à autre chose. Oui, mais bon, il te reste 11 fils. Puis bon, Joseph, hein, c'est comme ça, on va tous mourir un jour. Et puis on dit toutes sortes de choses hein, pour essayer de consoler. Mais je me demande personnellement, ça, j'ai rien dans la Bible pour ça. Mais un filou comme Jacob a été, quelqu'un qui a trompé, comme il a trompé. Je me demande pendant combien de temps il est resté trompé. Comme il s'est dit, il regarde cette veste, il la regarde de plus près, puis il regarde et dit, ah, mais là où il y a le sang, c'est pas déchiré, et c'est pas déchiré comme si c'était par les crocs d'un animal. Vous savez, après, il commence à regarder de plus près, il commence à étudier, vous savez, Et je me demande si lui, avec le temps, il n'a pas compris que c'est les frères qui l'ont tué. Mais il n'a rien dit. Quelque part, il dit, ouais, mais moi, j'ai quand même roulé du monde aussi. Mais moi, je pense qu'il a compris que c'était pas, il n'y avait pas, mais il n'a rien dit. Parce que quand on est coupable aussi, on ne peut rien dire. Parce que vous savez pas, vous pouvez pas prendre ça, prendre un manteau, le tremper, puis déchirer de manière à ce que ça ressemble à ce qu'un animal ferait. Et c'est un gars, il est pas jeune, Jacob, et il est malin, il connaît tous les 400 coups que pourraient avoir les fils. Vous savez, un voleur, c'est difficile de tromper. Le truc, c'est que ça n'a pas ramené son fils. Même s'il a compris, ça n'a pas ramené son fils. Il dit, oui, je paye cher pour ce que j'ai fait, mes années de révolte, mes années loin de Dieu, où je n'ai pas pensé à Dieu. Ça me coûte cher, ça me coûte un fils. Et puis mes fils, maintenant, je ne peux pas les parler correctement, je ne peux rien leur confier. Pour la famille, elle est gâchée, qu'est-ce qu'on fait? Et c'est une triste situation dans laquelle il se trouve. Mais le truc, c'est que Jacob, en fait, il est dans le deuil pour quelque chose qui n'est pas arrivé. Vous savez, c'est possible de souffrir de quelque chose qui n'existe pas. Rien que parce que, dans notre tête, ou parce que quelqu'un nous a raconté quelque chose. Et parfois on se fait du mauvais sang, parfois on panique pour des choses que, finalement, il n'y a rien. Hein? Et c'est possible. Et puis tous, ils viennent essayer de consoler, ils essaient de réparer sans confesser. On ne répare pas. Sans confesser le péché, on ne peut pas réparer la faute. On vient le consoler, on essaye, chérie, va voir ton beau-père là, et puis essaye de lui parler, le calmer, parce qu'il pleure là, il pleure la nuit, il pleure, ça, on n'arrête plus à dormir. Essaye de lui faire passer ça. Et puis après, on dit aux petits-enfants, on dit, écoute, va chez papy, là, essaye de jouer avec lui, essaye de le distraire pour qu'il change d'idée, va le faire rigoler. N'importe quoi, on fait toutes sortes. Et puis, tout ce qu'ils doivent mentir. Vous savez, la réalité, c'est contrairement à toute apparence, le projet de Dieu n'est pas anéanti. C'est ça le message. Il y a les conflits, les hommes ont des plans, Dieu a un projet, mais le plan de Dieu n'est pas anéanti. Ruben, il a fait ce qu'il a voulu, il les a empêchés de tuer, ils ont jeté dans la citerne. Judas est arrivé, il a eu l'idée de le vendre pour qu'il parte en Égypte. Mais finalement, l'Égypte, c'est là où Dieu le voulait. Joseph ne serait jamais parti en Égypte tout seul. Mais il était nécessaire qu'il soit. Finalement, il a été bien accompagné. Donc, Joseph vit. Joseph est en Égypte. Oui, Dieu le voudra. Joseph, en plus, il est chez Potiphar. C'est pas n'importe qui. Regardez la fin du chapitre 37. Il a été vendu à un certain Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes. Donc, en plus, il est passé dans une maison où il va bien comprendre comment les choses se passent dans le palais, le gouvernement, comment tout se passe. Il va acquérir de l'expérience. Il va être même gérant là-dedans. Dieu l'envoie et il fait une formation. Et Joseph, il sera éprouvé spirituellement, on verra ça. Mais en même temps, il est en train d'être formé pour le jour. Bon, Joseph ne comprend pas tout ça non plus. Dieu a un plan qu'il veut réaliser. Et les frères, avec leur haine, avec leur envie, leur jalousie, avec leur méchanceté, avec tout, ils n'ont pas pu anéantir le plan de Dieu. Et heureusement, parce que les choses, on verra comment les choses finissent. Et vous savez, nous pouvons faire confiance à Dieu. Dieu a un plan, et Dieu a un plan pour ma vie, et si je vis dans ce plan, les hommes ne peuvent rien. Pas plus qu'ils n'ont pu faire pour Jésus. Si vous lisez dans Actes chapitre 4, Pierre dit, Hérode et Pilate se sont ligués contre Jésus, mais ils l'ont mis à mort, mais en le mettant à mort, ils ont accompli ton plan. Et il a pu ressusciter et devenir le sauveur du monde. Vous savez, des fois, alors laissons faire, parfois on ne voit pas clair, et Joseph n'a pas toujours vu clair, et on le verra, il verra, il y aura des moments où il se pose des questions, et Dieu comprend qu'il y a des moments où on ne comprend pas pourquoi et comment, et pourquoi Dieu tu permets et tout ça. Il y a des moments où on marche un peu dans le noir. Mais, il y a une chose qui est certaine, Dieu accomplira son plan. Et ça, c'est le message que nous pouvons tirer pour ce soir.